Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Alors, je m'appelle Enrico Macias, né le 11 décembre 1938 à Constantine, Algérie. Je suis parti de Constantine exactement en 1961. À la suite de la tragédie de mon maître et mon futur beau-père à l'époque, c'est Cheikh Raymond, qui était un des plus grands représentants de la musique arabo-andalouse. Mon père était son violoniste et moi j'étais son guitariste. À l'âge de 15 ans, j'ai joué dans l'orchestre avec lui. Et quand il a été assassiné, malheureusement, j'étais obligé de partir parce que tous les membres de l'orchestre était condamné à mourir, pareil que lui. Mmh. Heureusement que mon père était déjà en France et que moi, tout de suite, on m'a mis dans le train et j'ai pris le bateau à Philippeville en 1961. Voilà. Cheikh Raymond était déjà en France avec mon papa. Et donc, j'étais content qu'il ne soit pas là parce que je sentais qu'il y avait un complot qui se préparait contre lui. Mm-hmm. Il disait qu'il était parti en Israël, qu'il était membre de l'OS, alors que ce n'était pas vrai du tout, quoi. Mm. Et puis d'un coup, il est revenu en France, en Algérie, et il m'a dit... je lui dis, mais tonton Raymond, c'est grave, c'est dangereux. Pourquoi tu es revenu ? Et il m'a dit, je suis revenu parce que je préfère mourir en Algérie que de vivre en France. Il sentait qu'il allait mourir, qu'il allait être tué, parce qu'on l'avait prévenu, on était alarmé, quoi. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Il m'a dit, voilà, les mots que je vous ai dit, c'est les derniers mots que j'ai entendus de lui. Et le lendemain, il a été tué.
Et jusqu'ici, vous aviez une vie paisible et agréable en Algérie ?
Non, c'était la guerre. Mmh. C'était la guerre d'Algérie. Ça fait partie des pages de l'histoire de la guerre d'Algérie. Ils l'ont assassiné parce qu'il représentait beaucoup pour la communauté juive de Constantine. Et en plus, c'était un phénomène de la musique, de la musique algérienne. Et il ne supportait pas qu'un juif représente la musique, la culture algérienne. Alors, quand ils ont tué tonton Raymond, c'était... comment vous dire, ils ont tué en même temps la musique arabo-andalouse, c'est-à-dire leur propre culture, Ils ont tué mon maître, ils ont tué ma musique, ils ont tué tout en même temps, quoi.
Et donc ensuite, vous êtes arrivé à Paris ?
On est arrivé d'abord, non, à Marseille. Après Marseille, on a été à Nice parce que j'avais un oncle qui avait un restaurant à Nice et il nous a reçus, toute la famille. Puis comme on ne voulait pas s'imposer trop, on a été dans une autre partie de ma famille qui était installée à Vichy. On a été tous ensemble et après, c'est lui et c'est mon oncle, l'autre oncle, Benjamin. Premier, c'est l'oncle Gilbert. Le deuxième, c'était l'oncle Benjamin. Ils nous ont emmenés à Paris, et chez ma tante, la sœur de mon père, qui habitait déjà à Paris, dans un tout petit appartement rue de Picpus. Et elle a accueilli les deux familles, la famille de ma future femme à l'époque, et puis de moi, ma famille à moi. Il a fallu tout reconstruire. Mon père a continué la musique arabo-andalouse. Et moi, j'étais un petit peu en bisbise avec mon père parce que je pensais que c'était une trahison vis-à-vis de Cheikh Raymond. Mais en fait, je le remercie. Je suis content maintenant, il est parti, mon père, mais que Dieu ait son âme aussi. Et que je suis content qu'il ait continué cette musique parce que c'était les derniers relents de cette musique arabo-andalouse parce qu'il a été très proche de Cheikh Raymond et lui, il était drogué de cette musique et je ne pouvais pas l'empêcher. Bon, moi, j'ai arrêté de l'accompagner parce que au début, je jouais avec lui parce que on passait dans des endroits mal famés. Il y avait des gens qui buvaient de l'alcool, qui étaient sous, qui manquaient de respect à mon père, tout. Et moi, je me bagarrais avec ces gens-là. Je me retrouvais tous les soirs au commissariat. J'ai plus voulu l'accompagner. Je lui ai dit, il s'est fâché avec moi, mon père. Je lui ai dit, écoute, papa, t'inquiète pas, je reviendrai, on fera la paix et je reviendrai quand j'aurai une situation. Et voilà, c'est comme ça ce que j'ai fait. Je suis resté quand même un an et demi, deux ans fâché. Et puis après, je suis revenu, ça s'est raccommodé. Après, je l'ai invité dans mes spectacles, à l'Olympia, tout ça.
C'est beau.
Un peu partout.
C'est beau. Voilà. Et du coup, donc, votre vrai parcours en tant que chanteur, vous l'avez commencé donc, en France ?
Ah ben oui, parce que, en fait, comme j'étais orphelin de la musique arabo-andalouse, j'ai voulu créer un répertoire pour me guérir de cette musique perdue, parce que de cette musique qui était perdue pour moi. Et j'ai construit un nouveau répertoire et je chantais dans les cabarets, je chantais et puis petit à petit j'ai fait ma carrière quoi.
Et vous aviez toujours eu envie d'être chanteur
Chanteur non, mais je voulais faire de la musique surtout comme guitariste parce que je voulais être concertiste et puis finalement je suis devenu chanteur par accident parce que j'aimais pas ma façon de chanter, ma voix quand j'étais adolescent. Et puis j'ai découvert par miracle quelque chose, puisque vous êtes guitariste, vous savez ce que c'est qu'un capodastre.
Mmh, bien sûr.
Donc j'ai découvert, je ne savais pas ce que c'était. Moi, j'étais dans un magasin de musique à Constantine et j'ai vu un capodastre. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et il m'a expliqué, c'est pour changer les... Et le problème, c'est que j'avais une technique à la guitare tellement rudimentaire par rapport entre la musique arabo-andalouse et la chanson occidentale, c'est pas pareil. La musique arabo-andalouse, c'est juste la mélodie qu'on joue. On ne jouait pas les harmonies. Mmh. Et quand je chantais mes chansons, j'ai chanté que dans une seule tonalité avec des harmonies rudimentaires que je connaissais. Et quand j'ai découvert l'existence du capodastre, je pouvais chanter ce que je voulais. Parce que j'adaptais le capodastre à ma tessiture, à ma tonalité. Et là, j'ai compris que j'étais un bon chanteur. Enfin, un bon chanteur.
J'ai compris. Bien sûr.
Ouais, voilà.
Ça a été une musique qui nous a permis, enfin, qui a permis même à beaucoup de Français de découvrir une musique d'ailleurs. En fait,
oui, c'est vrai. Je suis le premier, oui, à faire connaître un petit peu les musiques du monde, quoi, si vous voulez mieux. Parce que j'ai quand même deux racines importantes. C'est la musique orientale et j'ai introduit dans la musique occidentale un peu d'Orient et dans l'oriental, j'ai introduit un peu d'Occident. Quoi.
C'est vrai.
Mais ça s'est fait pas du tout façon calculée. C'est venu naturellement, parce qu'à cause de mes racines quoi, musicales. Quoi.
Bien sûr. Et est-ce que l'envie de retourner en Algérie ou même de faire carrière là-bas, plus qu'en France encore, est venue en vous ou pas ?
Non, parce que je ne pouvais pas aller en Algérie. Si on veut parler de l'exil, vous savez, l'exil est très, très contraignant, très dur, dans la mesure où on ne peut pas retourner dans l'endroit où on a été obligé de s'exiler. Par exemple, quelqu'un qui est d'un pays qui vient et qui s'exile et qui a la possibilité de retourner, c'est demi-mal. Tandis que quand on ne peut pas y retourner, et là c'est très grave, c'est quelque chose qui meurt, c'est des racines qui sont coupées.
Vous gardez quoi de l'Algérie ?
Je garde tout de l'Algérie. Je garde mon enfance, ma jeunesse. Je n'ai pas eu de jeunesse parce que c'était sous les bombes, la guerre, la violence, l'amour de ma femme qui nous a quittés il y a plus de 10 ans maintenant. Et puis la musique avec Cheikh Raymond, c'était les plus gros beaux moments de ma vie, malgré la violence de la guerre, malgré tout ça. Heureusement que j'ai eu ça, j'ai eu ces deux facteurs importants, la musique et l'amour de ma femme, et voilà, c'est comme ça.
Est-ce que vous avez raconté la vie d'avant, la vie en Algérie à vos enfants ?
Oh, bien sûr, je raconte, bien sûr, même à mes petits-enfants, ils veulent savoir. Ils veulent savoir d'où je viens, comme ils savent tous les événements qui se sont passés dans ma vie... Ils voudraient retourner aussi. Mais, par exemple, mes enfants ne veulent pas retourner pas avant que moi je retourne. Mais si Dieu me prête vie le plus longtemps possible, et que j'ai avant mon dernier souffle, si je peux y aller, ça sera très bien. Mais si je ne peux pas, je serai content de là où je serai, de voir mes enfants, mes petits-enfants aller là-bas.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite, la peur de devoir repartir de nouveau ?
De partir d'ici ?
Ouais.
Ah, bien sûr que j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai appris que l'histoire se répète souvent. Et que dans l'histoire du peuple juif, et dans notre histoire, on a vécu beaucoup de persécutions. Et c'est pas parce qu'on est venu en France qu'est quand même une terre d'asile, qu'on ne risque pas de regarder ce qui s'est passé quand il y a eu Vichy, Pétain et tout ça. Par exemple, moi, j'ai pas eu pendant 2 ans la chance de rentrer en classe quand j'étais petit, parce que les lois de Vichy me l'ont interdit. Alors imaginez les autres, ils étaient les fonctionnaires, ils n'avaient plus le droit d'être fonctionnaires. Ils perdaient leur situation, c'est terrible.
Bien sûr.
Donc, on ne sait jamais si un jour, il y a quelqu'un qui décide de nous persécuter encore et qu'on soit obligé de repartir. Oui, j'ai peur. Mais enfin, bon, maintenant, on a Israël comme point de chute. Avant, il n'y avait que Auschwitz. Maintenant, il y a Israël. Heureusement que Israël existe. Quand j'ai des épreuves telles que l'exil, je joue de la musique et ça me guérit. La musique est une thérapie pour moi.
Mais ça se sent. Hein. Ça se sent dans votre musique parce que ça fait du bien aussi aux autres.
Les autres ont subi la même histoire que moi.
C'est ça.
Et j'ai chanté leur histoire parce que c'était la mienne.
Mais vous avez su la dire parce que c'est pas facile. Moi, mes grands-parents, ils ont pas réussi à en parler. Ils étaient très silencieux sur tout ça parce que c'était douloureux. Et vous, vous avez réussi à sublimer ça, à en parler, à le chanter et à consoler du coup beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça, c'est incroyable.
Ça me fait plaisir qu'une jeune fille comme vous, de votre âge, réagisse comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve que mon message est bien passé de génération en génération, quoi. Je suis né dans une famille de musiciens. Mon grand-père n'était pas professionnel, mais il jouait de la flûte. C'était un amateur, mais il jouait bien. Il jouait de la flûte arabe. L'oncle de mon père était violoniste, mon père violoniste. Enfin, on a eu beaucoup de gens dans notre famille. D'ailleurs, le nom de notre famille, ça veut dire chanteur pour du Renacia.
Incroyable.
C'est le nom de notre famille. Et ils sont tous musiciens, tous.
Incroyable.
Famille.
Et quand j'étais petite, moi j'ai fait l'école des fans avec vous, chez Jacques Martin.
Oui, oui.
Donc ça remonte, c'était en 1996. Et j'avais chanté une chanson qui s'appelle « Ouvre-moi la porte ».
Voilà.
Et cette chanson, moi, elle m'interpelle particulièrement. Aujourd'hui, je comprends ce qu'elle veut dire. Vous l'aviez écrite, pourquoi
C'est-à-dire qu'au départ, je voulais faire un album qui se serait appelé « Les 12 portes ». Et à chaque fois que j'ouvrais une porte, c'était une histoire différente. C'est une bonne idée, d'ailleurs. Peut-être que je vais le faire un jour, quand même. Et finalement, dans mon entourage, on m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas juste une chanson, ouvre-moi la porte, une seule porte ?» Parce que faire 12 fois « Ouvre-moi la porte » avec une histoire différente, c'était original. Mais on m'a empêché. Vous savez, je vais vous donner une idée. Si jamais vous devez faire quelque chose, il faut toujours que ça vienne de vous. Il ne faut jamais demander conseil à qui que ce soit. Il faut que ça vienne de vous.
Et moi, j'aimerais beaucoup que Simon, votre petit-fils, qui poursuit également une carrière de chanteur, vous pose quelques questions.
Comment elle s'appelait ton école ?
L'école Montesquieu. C'était l'école juste en face de mon... De la fenêtre de chez moi, comme tu dirais ça, tu ouvres la fenêtre, il y avait la cour de l'école Montesquieu. Ça fait que ma mère, quand on était en études, dans la cour, dès qu'elle me voyait, elle me faisait comme ça, et elle descendait, et elle m'apportait un sandwich avec du saucisson.
C'est pas vrai.
Je te jure.
Ton père, il était dur avec toi ?
Non. Enfin...
Il était autoritaire à la maison ?
Il était un peu autoritaire, mais je sais pas comment t'expliquer. C'était un artiste quand même. C'était un artiste, mon père.
Donc il avait sa vie d'artiste, quoi, un peu.
Lui, ce qui comptait le plus pour lui, son violon. Il jouait de la musique, il était complètement insouciant. Complètement. Il avait comme but, c'est de faire de la musique.
Et il avait un peu les montagnes russes dans sa tête. Parfois, il était joyeux, parfois, il était malheureux, parfois, il était où il était.
Non. Ah non,
les artistes, ils sont un peu...
Non, il n'avait pas ça, non. Il avait un caractère égal, insouciant, je dis, au début. Tu te rappelles ?
Ouais.
Alors. T'avais le droit de sortir quand t'avais 12, 13 ans, 14 ans ?
Je jouais pieds nus avec mes copains au football. On arrivait les pieds complètement noirs.
L'école dans laquelle t'étais, et collège, c'était une école publique ?
Oui.
Donc il y avait de tout dans l'école, il y avait de toutes les religions.
Ah oui, ouais, ouais. Cosmopolite, enfin, de tout. Ouais.
Et vous étiez copain avec tout le monde ?
Ah oui, il n'y avait pas de différence. Mais dans les quartiers, on était...
Séparés.
Ah, ouais. Mais moi, j'étais dans un quartier où il y avait tout le monde. Mais le quartier juif, par exemple, c'était le quartier juif. Il n'y avait que des juifs.
Comment il s'appelait, le quartier juif ?
La rue de France, ou alors Hachara, je ne sais pas comment te dire. Il y avait du respect, sauf que pendant la guerre, ça s'est détérioré. Avant la guerre d'Algérie, on était très liés, les trois communautés. Plus avec les musulmans.
Bien sûr.
Qu'avec les chrétiens. Les chrétiens aussi, j'avais des copains chrétiens, pareil. Pour Noël, on fêtait Noël avec eux. Pour le Ramadan, on allait avec les musulmans. Et pour nos fêtes à nous, ils venaient chez nous. Donc tout le monde était en pleine connivence. C'est la guerre qui nous a séparés. La guerre nous a séparés. Mais encore, j'ai des exemples de musulmans dont le père était au FLN ou un truc comme ça, qui nous prévenaient quand il allait avoir un attentat. Toi, il y en a qui nous sauvaient. Et moi, j'ai sauvé aussi des musulmans qui étaient recherchés par les militaires dans les rues. Tu vois, c'est-à-dire...
Des indépendants.
Ce qui comptait le plus, c'était l'amitié qu'il y avait entre nous, en dehors de la politique. Mais après, évidemment, nous, on était jeunes. Ouais. La guerre d'Algérie, elle a commencé, j'avais 15 ans. Exactement. Voilà. Donc, de 15 ans jusqu'à 22 ans, ou 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus, jusqu'à 22 ans, c'était la guerre. Entre-temps, j'étais à Fontainebleau, passer mon bac et faire des études. Et puis, je suis retourné à Constantine, j'étais devenu instituteur. Puis après, je suis parti définitivement en 61. Au départ, j'étais pion. J'étais pion pour étudier j'étudiais la musique. Ouais, je gardais les enfants, tout ça. Et au bout d'un ou deux mois, ils sont venus me chercher. Parce que j'avais passé le bac Mathelem pour être instituteur. Parce que il manquait des... Je pouvais pas être professeur. Je pouvais être que instituteur. Alors, j'étais à l'école normale. J'ai fait un stage d'un mois. Puis après, on m'a envoyé dans le bled à Châteaudun-du-Rumel. J'étais instituteur là-bas. Je suis resté 2 ans instituteur. Ah, les petits, ils étaient entre 4 ans et 9 ans, 10 ans. Voilà. Et j'ai gardé un bon souvenir. C'est-à-dire que mon école, elle était installée dans les trois cimetières, juifs, musulmans et chrétiens. Il n'y avait même pas de cimetière juif là-bas. Il y avait un cimetière musulman et un cimetière chrétien. Deux. Et c'est-à-dire la vue que j'avais, c'était des tombes. Et je joue au foot avec mes élèves. On met devant les tombes et on mettait les buts sur les tombes. Mais c'est pas l'horreur, c'est comme ça. On s'adapte à toutes les situations.
Quand
je suis venu en France, j'ai demandé un poste d'instituteur. Oui, parce que j'avais pas de métier et tout ça, je savais pas quoi faire. Et ils m'ont pas répondu jusqu'en 1964. Quand j'ai fait l'Olympia avec les compagnons, ils m'ont envoyé une lettre pour choisir un poste. Je l'ai gardé, la lettre, d'ailleurs.
C'est énorme. Donc, t'es à l'Éducation nationale.
Oui. Oui. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je fais partie toujours de l'Éducation nationale parce que j'ai jamais donné ma démission.
C'est énorme.
Et j'ai simplement signé un papier comme quoi je toucherai pas de salaire. C'est tout. Mais si je veux, demain, je suis instituteur.
Tu serais à la retraite si tu étais à l'éducation.
Ben oui, mais maintenant que j'ai 83 ans, oui, bien sûr. Mais à une certaine époque, je me posais la question de devenir instituteur.
Arrête.
Non, bien sûr que non. Je suis arrivé jouer de la musique avec mon père. Et parallèlement, j'allais dans les cabarets. Je faisais les castings dans les cabarets. Je gagnais des clopinettes, mais je travaillais. Il m'est arrivé de faire 10 cabarets par nuit. 10 cabarets par nuit.
Ouais, mais c'est pas...
J'ai escumé tous les cabarets de Pigalle. Tout.
Mais parce que Paris, dans les années 60, quand t'es arrivé, tu devais être partagé entre le déchirement de l'exil... Et en même temps, la jeunesse, les filles, l'ouverture d'esprit des années 60 à Paris.
Même sur le bateau, quand on a quitté l'Algérie, mon seul... mon seul espoir, c'était de connaître un autre monde pour les jeunes. Tu vois, parce que c'est pas comme les vieux qui quittent l'Algérie, ils ont le rien. J'ajoute que c'était une première mort pour eux. Pour mes grands-parents, par exemple, c'était une première mort. Pas pour mes parents. Mes parents, ils étaient jeunes encore. Mais mes espoirs sont vite tombés à l'eau. Quand j'ai vu la façon dont on nous a reçus et les humiliations qu'on a eues dans les spectacles, quand je chantais Adieu mon pays, retourne dans ton pays et bronzé, ouais, des bagarres. Du coup, j'ai mis la chanson Adieu mon pays à la fin, comme ça je savais que c'était fini mon spectacle. Même avec mon père, quand je jouais avec mon père et qu'il nous manquait de respect, j'étais tous les soirs au poste. Parce que je me bagarrais. Et le patron du cabaret, il cherchait pas à comprendre, il appelait la police. La police venait, allait.
Ah, donc vous avez senti une discrimination, enfin en tout cas, vous étiez pointé du doigt. Quoi.
Ah ouais. Pour rien, à cause de mon teint, à cause de mes. À l'époque, j'avais les cheveux frisés.
À cause de vos différences, en fait.
Oui.
Mais une discrimination qui a été. Qui a existé, mais qui n'a pas duré très longtemps.
Si, ça a duré pendant 2 ans, c'est arrivé. Et au bout de 3 ans, j'ai commencé à rencontrer un peu le succès et tout ça. Mais pendant 3 ans, tu ne sais pas quand c'est que ça va arriver. Mais moi, j'avais le démon de la musique. Et la musique, c'est ce qui m'a tout le temps sauvé. Puis le fait d'avoir été instituteur, c'était pour moi une porte de sortie, si jamais ça marchait pas ou un truc comme ça. Je trouve que ça a marché vite, c'est-à-dire que je pouvais travailler vite. Un petit détail, par exemple, on parlait de 10 cabarets par jour. Un jour, je faisais un cabaret et j'avais une demande pour moi. Pour faire un gala, alors je touchais 10 francs par cabaret. Comme j'en faisais 10, ça me faisait 100 francs. C'est beaucoup d'argent. Et un jour, j'ai un gala qu'on m'avait demandé à 400 francs le gala. 400 francs. Moi, j'étais en retard. Je sors du cabaret, il y avait plein de taxis. Et le premier taxi que je voulais prendre, il ne voulait pas me prendre parce que ils voyaient que j'étais un artiste débutant. Ils préféraient attendre les Américains, des cabarets, pour leur soutirer beaucoup d'argent. Et moi, ils me disaient non. Le deuxième, non. Le troisième, non. Le quatrième, non. C'est... Jusqu'au dernier taxi, non. Tu sais, quand t'es en besoin, quand t'as faim, surtout devant l'injustice, devant l'injustice, pourquoi il ne me prend pas, cet enfoiré de taxi, là? Pourquoi il ne me prend pas? J'ai souffert, mais il y a toujours une récompense.
Et la guerre en Algérie, c'était comment? C'était sous le couvre-feu?
Couvre-feu à partir de 11h du soir, jusqu'au matin. Alors moi, j'allais dans un cabaret. Quand j'étais instituteur, je partais à 5 heures, je faisais de l'autostop, j'arrivais à Constantine, j'allais dans un cabaret à Constantine, ce qui était tenu par un de mes oncles, le frère de ma grand-mère. Ça s'appelait Chez nous, le cabaret Chez nous. Et donc j'allais là-bas, tonton Clément, c'était mon oncle. C'était un peu comme tonton Gilbert de Nice, tu vois, c'était des gens...
Des cousins?
Non, c'est les cousins germains de mon père.
C'est ça.
Voilà. Et c'est-à-dire que leur père, c'était le frère de ma grand-mère. Donc c'était proche quand même. Et il était un peu autoritaire, tonton Clément, mais je l'aimais beaucoup. Et je lui demandais si je pouvais chanter avec un orchestre. Alors, c'est pas mon répertoire. Je chantais chanteur d'orchestre dans son cabaret. Et il m'avait adopté. Et je lui dis, tonton, je peux pas rentrer maintenant à la maison. C'est le couvre-feu, qu'est-ce que je fais ? Il m'a dit, ben dors sur le canapé. Je dormais sur le canapé. Je me réveillais à 5h du matin pour aller faire de l'autostop pour aller à Châteaudun-du-Rumel pour enseigner. J'ai passé un an de galère comme ça. Je ne savais pas ce que c'était que dormir. Je dormais entre 10h et 1h de l'après-midi à l'école. Je reprenais à 3h. De 3h jusqu'à 5h. À 5h, je faisais de l'autostop pour partir. J'ai passé une galère incroyable, surtout à Constantine, plus qu'à Paris. À Paris, c'était plus facile. Il n'y avait pas la guerre. Mais à Constantine, il y avait, tu sais, des gens qui mouraient devant moi, hein. Des militaires, des attentats.
Et quand c'est la guerre comme ça, on n'a pas le temps de tomber amoureux.
Ah, mais moi, j'étais tombé amoureux de Suzy, quand même. Ah, quand même.
Mais vous ne pouviez pas la fréquenter.
Non. Non. Je l'emmenais au cinéma. Et le premier cinéma où j'ai été avec elle, devine comment il s'appelait.
L'Olympia.
Oui.
Non.
Sur ta tête, là, c'est ça. L'Olympia. C'est-à-dire, ma destinée, c'est l'Olympia, tout le temps. C'était un cinéma qui avait à Constantine, qui s'appelait l'Olympia. Pas loin de où elle habitait. Et on allait au cinéma ensemble.
C'est fou. Donc, en fait, c'était ça, flirter avec une fille, c'était l'emmener au cinéma.
Ouais.
L'emmener dîner.
Non, il n'y avait pas de restaurant chez nous, il n'y avait pas.
Il n'y avait pas.
Dîner. On dînait à la maison chez nous.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.